Chapitre 4. La mystique de la sollicitude. La société de consommation ne se désigne pas seulement par la profusion des biens et des services, mais par le fait plus important que tout est service. Que ce qui est donné à consommer ne se donne jamais comme produit pur et simple, mais bien comme service personnel, comme gratification. Depuis Guinness is good for you, jusqu'à la profonde sollicitude des hommes politiques pour leurs concitoyens, en passant par le sourire de l'hôtesse et les remerciements du distributeur automatique de cigarettes, chacun de nous est environné d'une formidable serviabilité, entouré d'une coalition de dévouement et de bonne volonté. La moindre savonnette se donne comme le fruit de la réflexion de tout un concile d'experts penchés depuis des mois sur le velouté de votre peau. Airborne met tout son état-major au service de votre cul. Ouvrez les guillemets, car tout est là, c'est lui notre premier terrain d'étude, notre métier est de vous asseoir. Anatomiquement, socialement et presque philosophiquement, tous nos sièges sont nés d'une observation minutieuse de votre personne. Si un fauteuil a une coque en polyester, c'est pour mieux épouser votre galbe délicat, etc. Fermez les guillemets. Ce siège n'est plus un siège, c'est une prestation sociale totale en votre faveur. Rien n'est aujourd'hui purement et simplement consommé, c'est-à-dire acheté, possédé, utilisé à telle fin. Les objets ne servent pas tellement à quelque chose. D'abord et surtout, ils vous servent. Sans ce complément d'objet direct, le « vous » personnalisé, sans cette idéologie totale de prestation personnelle, la consommation ne serait que ce qu'elle est. C'est la chaleur de la gratification, de l'allégeance personnelle qui lui donne tout son sens. Ce n'est pas la satisfaction pure et simple. C'est au soleil de la sollicitude que bronzent les consommateurs modernes. Transfert social et transfert maternel. Ce système de gratification et de sollicitude a, dans toutes les sociétés modernes, des supports officiels. Ce sont toutes les institutions de redistribution sociale, sécurité sociale, caisse de retraite, allocations multiples, subventions, assurances, bourses. Par où, dit F. Pérou, les pouvoirs publics sont amenés à corriger les excès des pouvoirs des monopoles par les flux des prestations sociales destinées à satisfaire des besoins et non pas à rémunérer des services productifs. Ces derniers transferts, sans contrepartie apparente, diminuent, sur une longue période, l'agressivité des classes dites « dangereuses ». Fermez les guillemets. Nous ne discuterons pas ici l'efficacité réelle de cette redistribution ni ses mécanismes économiques. Ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme psychologique collectif qu'elle fait jouer. Grâce à ces prélèvements et à ces transferts économiques, l'instance sociale, c'est-à-dire l'ordre établi, se donne le bénéfice psychologique de la générosité, se donne comme instance secourable. Tout un lexique maternel, protectionniste, désigne ces institutions. Sécurité sociale, assurance, protection de l'enfance, de la vieillesse, allocation chômage. Cette charité bureaucratique, ces mécanismes de solidarité collective, et qui sont tous des conquêtes sociales, jouent ainsi, à travers l'opération idéologique de redistribution, comme mécanisme de contrôle social. Tout se passe comme si une certaine part de la plus-value était sacrifiée pour préserver l'autre. Le système global de pouvoir se soutenant de cette idéologie de la munificence où le bienfait cache le bénéfice. D'une pierre deux coups, le salarié bien content de recevoir sous les apparences du don ou de la prestation gratuite une partie de ce dont il a été auparavant dessaisi. C'est, pour résumer, ce que J.M. Clark désigne sous le terme de pseudo-market society. Malgré l'esprit marchand, les sociétés d'Occident proposent leur cohésion par les attributions prioritaires, les législations de la sécurité sociale, la correction des inégalités de départ. Le principe de toutes ces mesures est une solidarité extra-mercantile. Les moyens sont l'usage judicieux d'une certaine dose de contrainte pour des transferts qui n'obéissent pas d'eux-mêmes au principe d'équivalence, mais aux règles d'une économie redistributive qui se rationalise peu à peu. Plus généralement, il est vrai de toute marchandise, selon F. Pérou, qu'elle est le nœud de processus relationnel, institutionnel, transférentiel, culturel et non seulement industriel. Dans une société organisée, les hommes ne peuvent échanger purement et simplement des marchandises, ils échangent à cette occasion des symboles, des significations, des services et des informations. Chaque marchandise doit être considérée comme le noyau de services non imputables et qui la qualifie socialement. Fermez les guillemets. Or ceci, qui est juste, veut dire réversiblement que nul échange, nulle prestation dans notre société, de quelque type qu'elle soit, n'est gratuite. Que la vénalité des échanges, même les plus désintéressés apparemment, est universelle. Tout s'achète, tout se vend, mais la société marchande ne peut le concéder ni en principe ni en droit. D'où l'importance idéologique capitale du mode social de la redistribution. Celle-ci induit dans la mentalité collective le mythe d'un ordre social tout entier dévoué au service et au bien-être des individus. Le pathos du sourire. Pourtant, à côté des institutions économiques et politiques, c'est tout un autre système de relations sociales, plus informel, non institutionnel celui-là, qui nous intéresse plus précisément ici. C'est tout le réseau de communication personnalisée qui envahit la quotidienneté de la consommation. Car c'est bien de consommation qu'il s'agit. Consommation de relations humaines, de solidarité, de réciprocité, de chaleur et de participation sociale standardisée sous forme de service. Consommation continuelle de sollicitude, de sincérité et de chaleur, mais bien sûr consommation des signes seulement de cette sollicitude. Vitale pour l'individu plus encore que l'alimentation biologique, dans un système où la distance sociale et l'atrocité des rapports sociaux sont la règle objective. La perte de la relation humaine, spontanée, réciproque, symbolique, est le fait fondamental de nos sociétés. C'est sur cette base qu'on assiste à la réinjection systématique de relations humaines sous forme de signes, dans le circuit social, et à la consommation de cette relation, de cette chaleur humaine signifiée. L'hôtesse d'accueil, l'assistante sociale, l'ingénieur en relations publiques, la pin-up publicitaire, tous ces apôtres fonctionnaires ont pour mission séculière la gratification, la lubrification des rapports sociaux par le sourire institutionnel. On voit partout la publicité mimer les modes de communication proches, intimistes, personnels. Elle essaie de parler à la ménagère le langage de la ménagère d'en face. Elle essaie de parler au cadre ou à la secrétaire comme son patron ou son collègue. Elle essaie de parler à chacun de nous comme son ami ou son surmoi, ou comme une voix intérieure sur le mode de la confession. Elle produit ainsi, là où il n'y en a pas, ni entre les hommes, ni entre eux et les produits, de l'intimité, selon un véritable processus de simulation. Et c'est cela, entre autres, mais peut-être d'abord, qui est consommé dans la publicité. Toute la dynamique de groupe et les pratiques analogues relèvent du même objectif ou de la même nécessité. Le psychosociologue patenté et payé cher pour réinjecter de la solidarité, de l'échange, de la communication dans les rapports opaques de l'entreprise. Ainsi, de tous les secteurs tertiaires des services, le commerçant, l'employé de banque, la vendeuse de magasin, le représentant de commerce, les services de renseignement, de promotions et de ventes, tous ces emplois de conditionnement, de marketing et de merchandising, de la relation humaine, sans oublier le sociologue, l'intervieweur, l'impresario et le salesman, à qui la règle professionnelle impose le contact, la participation, l'intéressement psychologique des autres, dans tous ces secteurs d'emploi et de rôle, la connotation de réciprocité, de chaleur est incluse dans la programmation et l'exercice de la fonction. Elle constitue l'atout essentiel dans la promotion, dans le recrutement et le salaire. Avoir des qualités humaines, les qualités de contact, chaleur relationnelle, etc. Partout, c'est un déferlement de spontanéité truquée, de discours personnalisés, d'affectivité et de relations personnelles orchestrées. Le sourire de Sofitel Lyon, c'est celui que nous espérons voir fleurir sur vos lèvres quand vous passerez notre porte, c'est celui de tous ceux qui ont déjà apprécié un hôtel de notre chaîne, c'est la démonstration de notre philosophie en matière d'hôtellerie, le sourire. Fermez les guillemets. Opération Vers de l'amitié. Des vers de l'amitié dédicacés par les plus grands noms de la scène, de l'écran, du sport et du journalisme serviront de prime à la vente des produits des firmes désireuses de faire un don à la Fondation pour la recherche médicale française. Parmi les personnalités qui ont signé et décoré les vers de l'amitié figurent notamment le coureur J.P. Beltoise, Louison Baudet, Yves Saint-Laurent, Bourville, Maurice Chevalier, Bernard Buffet, Jean Marais et l'explorateur Paul-Émile Victor. Fermez les guillemets. TWA, ouvrez les guillemets, nous distribuons $1 million de primes à tous ceux de nos employés qui savent se surpasser en s'occupant de vous. Cette distribution dépend de vous, heureux passagers, à qui nous demandons de voter pour les employés TWA, dont le service vous aura vraiment comblé. Fermez les guillemets. superstructure tentaculaire qui dépasse de loin la simple fonctionnalité des échanges sociaux pour se constituer en philosophie, en système de valeurs de notre société technocratique. Playtime ou la parodie des services. Cet immense système de sollicitude vit sur une contradiction totale. Non seulement il ne saurait masquer la loi d'airain de la société marchande, la vérité objective des rapports sociaux, qui est la concurrence, la distance sociale croissante avec la promiscuité et la concentration urbaine et industrielle, mais surtout la généralisation de l'abstraction de la valeur d'échange au sein même de la quotidienneté et des relations les plus personnelles. Mais ce système, en dépit des apparences, est lui-même un système de production. Production de communication, de relations humaines, de services. Il produit de la sociabilité. Or, en tant que système de production, il ne peut qu'obéir aux mêmes lois qui sont celles du mode de production des biens matériels, il ne peut que produire dans son fonctionnement même les rapports sociaux qu'il a pour objectif de dépasser. Destiné à produire de la sollicitude, il est voué à produire et à reproduire simultanément de la distance, de la non-communication, de l'opacité et de l'atrocité. Cette contradiction fondamentale est sensible dans tous les domaines de relations humaines fonctionnalisées. Parce que cette sociabilité nouvelle, cette sollicitude rayonnante, cette ambiance chaleureuse n'a justement plus rien de spontané, parce qu'elle est produite institutionnellement et industriellement, il serait étonnant que ne transparaisse pas, dans sa tonalité même, sa vérité sociale et économique. Et c'est bien cette distorsion qu'on éprouve partout. Partout, ce fonctionnariat de la sollicitude est biaisé et transi par l'agressivité, le sarcasme, l'humour noir involontaire. Partout, les services rendus, la serviabilité sont subtilement associés à la frustration, à la parodie. Et partout, on éprouve, lié à cette contradiction, la fragilité de ce système général de gratification et qu'il est toujours au bord de se détraquer et de s'écrouler. C'est d'ailleurs ce qui se produit de temps en temps. Nous touchons là à une des contradictions profondes de notre société dite d'abondance, celle entre la notion de service, d'origine et de tradition féodale, et les valeurs démocratiques dominantes. Le serf ou le serviteur féodal ou traditionnel servent de bonne foi, sans réserve mentale. Le système apparaît pourtant déjà en pleine crise chez Swift, dans les institutions domestiques, où ceci constitue une société pour soi, tout entière solidaire en marge de la société des maîtres, société parasitaire et cynique, parodique et sarcastique. C'est l'effondrement dans les mœurs de la société féale du service. Elle aboutit à une hypocrisie féroce, à une espèce de lutte des classes latentes, honteuse, à une exploitation réciproque éhontée des maîtres et des serviteurs, sous le couvert d'un système de valeurs qui formellement n'a pas changé. Aujourd'hui, les valeurs sont démocratiques. Il en résulte une contradiction insoluble au niveau des services, dont la pratique est inconciliable avec l'égalité formelle des personnes. Seule issue, un jeu social généralisé, car chacun aujourd'hui non seulement dans sa vie privée, mais dans sa pratique sociale et professionnelle est assigné à recevoir ou rendre des services, chacun est plus ou moins le tertiaire de l'autre. Ce jeu social de la relation humaine en société bureaucratique est différent de l'hypocrisie féroce des vallées de Swift, dans un gigantesque modèle de simulation de la réciprocité absente. Ce n'est plus de la dissimulation, c'est de la simulation fonctionnelle. Le minimum vital de la communication sociale n'est atteint qu'au prix de ce forcing relationnel où chacun est impliqué, magnifique trompe-l'œil destiné à pacifier la relation objective d'hostilité et de distance qui va de chacun à tous. Notre monde des services est encore largement celui de Swift. La hargne du fonctionnaire, l'agressivité du bureaucrate sont des formes archaïques, encore swiftiennes d'inspiration. Ainsi la servilité du coiffeur de dames, l'importunité délibérée, sans scrupule, du représentant de commerce, tout cela est encore une forme violente, forcée, caricaturale de la relation de service. Rhétorique de la servilité, où transparaît malgré tout, comme entre les maîtres et les valets de Swift, une forme aliénée de relation personnelle. La façon qu'ont l'employé de banque, le groom ou la demoiselle des postes d'exprimer soit par leur acrimonie, soit par leur hyper-dévotion, qu'ils sont payés pour le faire, c'est cela qu'il y a en eux d'humain, de personnel et d'irréductible au système. La grossièreté, l'insolence, la distance affectée, la lenteur calculée, l'agressivité ouverte ou inversement, le respect excessif, C'est cela qui, en eux, résiste à la contradiction d'avoir à incarner, comme si c'était naturel, une dévotion systématique et pour laquelle ils sont payés, un point c'est tout. D'où l'ambiance visqueuse, toujours au bord de l'agression voilée, de cet échange de services où les personnes réelles résistent à la personnalisation fonctionnelle des échanges. Mais ceci n'est qu'un résidu archaïque. La véritable relation fonctionnelle aujourd'hui a résolu toute tension. La relation fonctionnelle de service n'est plus violente, hypocrite, sadomasochiste. Elle est ouvertement chaleureuse, spontanément personnalisée et définitivement pacifiée. C'est l'extraordinaire atonalité vibrante des speakerines d'Orly ou de la télévision. C'est le sourire atonal, sincère et calculé, mais au fond, ni l'un ni l'autre, car ce n'est plus une question de sincérité ou de cynisme, c'est de la relation humaine fonctionnalisée, épurée de tout aspect caractériel ou psychologique, épurée de toute harmonique réelle et affectif, mais reconstituée à partir des vibrations calculées de la relation idéale. Bref, dégagée de toute dialectique morale violente de l'être et de l'apparence, et restituée à la seule fonctionnalité du système de relation. Nous sommes encore dans nos sociétés de consommation de services, au carrefour de ces deux ordres. C'est ce qu'illustrait très bien le film de Jacques Tati, Playtime, où l'on passait du sabotage traditionnel et cynique, de la parodie méchante des services, tout l'épisode du cabaret de prestige, le poisson refroidi qui va d'une table à l'autre, l'installation qui se détraque, toute la perversion des structures d'accueil et la désagrégation d'un univers trop neuf, à la fonctionnalité instrumentale et inutile des salons de réception, fauteuils et plantes vertes, des façades de verre et de communication sans rivage, dans la sollicitude glaciale des innombrables gadgets et d'une ambiance impeccable. La publicité et l'idéologie du don. La fonction sociale de la publicité est à saisir dans la même perspective extra-économique de l'idéologie du don, de la gratuité et du service. Car la publicité n'est pas seulement promotion des ventes, suggestion des fins économiques, elle n'est peut-être même pas cela d'abord. On s'interroge de plus en plus sur son efficacité économique. Le propre du discours publicitaire, c'est de nier la rationalité économique de l'échange marchand sous les auspices de la gratuité. Cette gratuité a des aspects économiques mineurs. Ce sont les rabais, les soldes, les cadeaux d'entreprise, tous les mini-gadgets offerts à l'occasion d'un achat, les gimmicks. La profusion des primes, de jeux, de concours, d'affaires exceptionnelles constitue l'avant-scène de la promotion, son aspect extérieur tel qu'il apparaît à la ménagère de base. Description robot. Ouvrez les guillemets. Le matin, la ménagère consommatrice ouvre les volets de sa maison. La maison du bonheur gagnée au grand concours Floraline. Elle prend son thé dans le splendide déjeuner au décor persan qu'elle a obtenu grâce au triscotte, contre 5 preuves d'achat et 9,90 €. Elle enfile une petite robe, une affaire des 3J, 20% de réduction, pour se rendre au prix unique. Elle n'oublie pas sa carte Prisu qui lui permet de faire ses achats sans argent. Plat de résistance tout trouvé. Au supermarché, elle a joué au jeu de la lanterne magique Buitoni et elle a gagné 40 centimes de réduction sur une boîte de poulet impérial, 5,90 €. Pour son fils, du culturel. Le tableau de Peter Van Hook avec la poudre à laver persil. Grâce au cornflakes Kellogg's, elle s'est montée un aéroport. L'après-midi, pour se détendre, elle met un disque, un concerto brandebourgeois. Ce 33 tours lui a coûté 8 francs avec le tripack San Pellegrino. Ce soir, grande nouveauté, la télévision en couleur gracieusement prêtée pendant 3 jours par Philips, sur simple demande, sans obligation d'achat, etc. Fermez les guillemets. Je vends de moins en moins de lessive et de plus en plus de cadeaux, soupire le directeur commercial d'une fabrique de détergents. Ceci n'est que le clin d'œil, le menu fretin des relations publiques. Mais il faut voir que toute la publicité n'est que l'extrapolation gigantesque de ce quelque chose en plus. Les petites gratifications quotidiennes prennent dans la publicité la dimension d'un fait social total. La publicité est dispensée, comme une offre gratuite et continuelle à tous et pour tous. Elle est l'image prestigieuse de l'abondance, mais surtout le gage répété du miracle virtuel de la gratuité. Sa fonction sociale est donc celle d'un secteur des relations publiques. On sait comment procède celle-ci. Visite d'usine, Saint-Gobain, stage de recyclage des cadres dans les châteaux Louis XIII, sourire photogénique du directeur général, œuvre d'art dans les usines, dynamique du groupe, ouvrez les guillemets, la tâche du RP Man est de maintenir une harmonie d'intérêts mutuels entre le public et les managers. Fermez les guillemets. De la même façon, la publicité sous toutes ses formes a pour fonction la mise en place d'un tissu social idéologiquement unifié, sous les auspices d'un super mécénat collectif, d'une super féodalité gracieuse, qui vous offre tout ça en plus, comme les nobles donnaient la fête à leur peuple. À travers la publicité, qui est déjà en soi un service social, tous les produits se donnent comme service. Tous les processus économiques réels sont mis en scène et réinterprétés socialement comme effet de don, d'allégeance personnelle et de relation affective. Que cette munificence, comme celle des potentats, ne soit jamais qu'une redistribution fonctionnelle d'une partie des bénéfices, ceci est sans conséquence. L'astuce de la publicité est justement de substituer partout la magie du cargo, l'abondance totale et miraculeuse dont rêvent les indigènes, à la logique du marché. Tous les jeux de la publicité vont dans ce sens. Voyez comme elle se fait partout discrète, bénévole, effacée, désintéressée. Une heure d'émission de radio pour une minute de flash sur une marque. Quatre pages de prose poétique et la marque de la firme, honteuse, au bas d'une page. Et tous les jeux avec elle-même, surenchère d'effacement et de parodie anti-publicitaire. La page blanche pour la 1 000 000e Volkswagen. Ouvrez les guillemets. Nous ne pouvons pas vous la montrer, elle vient d'être vendue. Tout cela, qui peut s'inscrire dans une histoire de la rhétorique publicitaire, se déduit d'abord logiquement de la nécessité pour la publicité de se dédouaner du plan de la contrainte économique et d'alimenter la fiction d'un jeu, d'une fête, d'une institution caritative, d'un service social désintéressé. L'ostentation du désintéressement joue comme une fonction sociale de la richesse et comme facteur d'intégration. On jouera même à la limite l'agressivité envers le consommateur, l'antiphrase. Tout est possible et tout est bon. Non pas tellement pour faire vendre que pour restituer du consensus, de la complicité, de la collusion. Bref, là aussi, pour produire de la relation, de la cohésion, de la communication. Que ce consensus induit par la publicité puisse ensuite résulter en adhésion à des objets, en conduite d'achat et en obéissance implicite aux impératifs économiques de consommation, ceci est certain, mais ce n'est pas l'essentiel. Et de toute façon, cette fonction économique de la publicité est consécutive à sa fonction sociale globale. C'est bien pourquoi elle n'est jamais assurée. La vitrine. La vitrine, toutes les vitrines qui sont, avec la publicité, le foyer de convention de nos pratiques urbaines consommatrices, sont aussi par excellence le lieu de cette opération consensus, de cette communication et de cet échange des valeurs par où toute une société s'homogénéise, par acculturation quotidienne incessante à la logique, silencieuse et spectaculaire, de la mode. Cet espace spécifique qu'est la vitrine, ni intérieur ni extérieur, ni privé ni tout à fait public, qui est déjà la rue tout en maintenant derrière la transparence du verre le statut opaque et la distance de la marchandise, cet espace spécifique est aussi le lieu d'une relation sociale spécifique. Le travelling des vitrines. Leur féerie calculée qui est toujours en même temps une frustration, cette valse hésitation du shopping, cette danse canaque d'exaltation des biens avant l'échange. Les objets et les produits s'y offrent dans une mise en scène glorieuse, dans une ostentation sacralisante. Ce n'est pas un faire-part pur et simple, pas plus que dans la publicité, c'est comme dit l'agneau, un faire-valoir. Ce don symbolique que miment les objets mis en scène, cet échange symbolique silencieux entre l'objet offert et le regard invite évidemment à l'échange réel, économique, à l'intérieur du magasin. Mais pas forcément, et de toute façon, la communication qui s'établit au niveau de la vitrine n'est pas tellement celle des individus aux objets qu'une communication généralisée de tous les individus entre eux à travers non pas la contemplation des mêmes objets, mais à travers la lecture et la reconnaissance dans les mêmes objets, du même système de signes et du même code hiérarchique des valeurs. C'est cette acculturation, c'est ce dressage qui a lieu à chaque instant partout dans les rues, sur les murs, dans les couloirs du métro, sur les panneaux publicitaires et les enseignes lumineuses. Les vitrines scandent ainsi le procès social de la valeur. Elles sont pour tous un test d'adaptation continuelle, un test de projection dirigée et d'intégration. Les grands magasins constituent une sorte de sommet de ce processus urbain, un véritable laboratoire et creuset social où la collectivité renforce sa cohésion, comme dans les fêtes et les spectacles. Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse. La société thérapeutique. L'idéologie d'une société qui prend continuellement soin de vous culmine dans l'idéologie d'une société qui vous soigne, et très précisément comme malade virtuel. Il faut croire en effet que le grand corps social est bien malade, et les citoyens consommateurs bien fragiles, toujours au bord de la défaillance et du déséquilibre, pour que partout chez les professionnels, dans les gazettes et chez les moralistes analystes, se tienne ce discours thérapeutique. Bleustein Blanchet. Je considère que les Gallups sont un instrument indispensable de mesure que le publicitaire doit utiliser comme le médecin qui prescrit analyse et radiographie. Fermez les guillemets. Un publicitaire. Ce que vient chercher le client, c'est une sécurité. Il a besoin d'être rassuré, pris en charge. Pour lui, vous êtes tantôt le père ou la mère ou le fils. Fermez les guillemets. Ou bien, notre métier est proche de l'art médical. Ou encore, on est comme les toubibs, on donne des conseils, on n'impose rien. Et enfin, mon métier, c'est un sacerdoce comme celui du médecin. Fermez les guillemets. Architecte, publicitaire, urbaniste, designer, tous se veulent démiurges ou plutôt thaumaturges de la relation sociale et de l'environnement. Les gens vivent dans la laideur, il faut guérir tout cela. Les psychosociologues, eux aussi, se veulent thérapeutes de la communication humaine et sociale. Jusqu'aux industriels qui se prennent pour des missionnaires du bien-être et de la prospérité générale. La société est malade. C'est le leitmotiv de toutes les bonnes âmes au pouvoir. La société de consommation est un chancre. Il faut lui rendre un supplément d'âme, dit M. Chaban-Delmas. Il faut dire que ce grand mythe de la société malade, mythe qui évacue toute analyse des contradictions réelles, les medicine men contemporains, que sont les intellectuels, sont très largement complices. Ceux-ci, cependant, ont tendance à localiser le mal à un niveau fondamental, d'où leur pessimisme prophétique. Les professionnels, en général, tendent plutôt à entretenir le mythe de la société malade, non pas tellement organiquement, dans ce cas c'est incurable, que fonctionnellement, au niveau de ses échanges et du métabolisme. D'où leur optimisme dynamique. Il suffit pour la guérir de rétablir la fonctionnalité des échanges, d'accélérer le métabolisme, c'est-à-dire, encore une fois, injecter de la communication, de la relation, du contact, de l'équilibre humain, de la chaleur, de l'efficacité et du sourire contrôlé. Ce à quoi il s'emploie allègrement et avec profit. Ambiguïté et terrorisme de la sollicitude. Toute cette liturgie de la sollicitude, il faut insister sur son ambiguïté profonde, laquelle recoupe très exactement le double sens du verbe « solliciter ». Premièrement, l'acceptation qu'il prend dans sollicitude, prendre soin d'eux, gratifier, materner, etc., c'est le sens manifeste et le sens le plus courant, le don. Deuxièmement, le sens inverse qu'il prend de demande, sollicitant une réponse d'exigence, de réquisition à la limite. Sens plus évident encore dans l'acceptation moderne, solliciter des chiffres, solliciter des faits. Ici, il s'agit franchement de dévier, capter, détourner à son profit, exactement l'inverse de la sollicitude. Or, la fonction de tout l'appareil, institutionnel ou non, de sollicitude, relations publiques, publicité, etc., qui nous entoure et prolifère, c'est bien tout à la fois de gratifier et satisfaire, et de séduire et détourner subrepticement. Le consommateur moyen est toujours l'objet de cette double entreprise. Il est sollicité dans tous les sens du terme. L'idéologie du don que véhicule la sollicitude étant toujours l'alibi du conditionnement réel qui est celui de la sollicitation. Cette rhétorique de la thaumaturgie et de la sollicitude qui marque la société de consommation et d'abondance d'une tonalité affective particulière à des fonctions sociales précises. Premièrement, recyclage affectif des individus isolés dans la société bureaucratique par la division technique et sociale du travail et par la division technique et sociale parallèle, tout aussi totale et bureaucratique, des pratiques de consommation. Deuxièmement, stratégie politique d'intégration formelle, qui vient doubler et compenser les défaillances des institutions politiques. Tout comme le suffrage universel, les référendums, les institutions parlementaires sont destinées à mettre en place un consensus social par participation formelle. Ainsi, la publicité, la mode, les relations humaines et publiques peuvent s'interpréter comme une sorte de référendum perpétuel, où les citoyens consommateurs sont sollicités à chaque instant de se prononcer favorablement pour un certain code de valeur et le sanctionnent implicitement. Ce système informel de mobilisation de l'assentiment est plus sûr. Il ne permet pratiquement pas de dire non. Il est vrai que le référendum électoral est lui aussi une mise en scène démocratique du oui. Dans tous les pays, On voit aujourd'hui les processus de contrôle social violents, contraintes répressives, étatiques, policières, relayés par des mots d'intégration participationnistes. D'abord sous la forme parlementaire et électorale, ensuite par les processus informels de sollicitation dont nous parlons. Il serait intéressant d'analyser dans ce sens l'opération Relations publiques mise en place par Publicis Saint-Gobain dans ce grand événement sociologique que fut l'OPA de Boussois contre Saint-Gobain. L'opinion publique mobilisée, sollicitée comme témoin, requise comme actionnaire psychologique dans l'opération. Dans la restructuration objective de l'entreprise capitaliste, le public s'est trouvé, sous couleur d'information démocratique, intégré comme jury et, à travers le groupe symbolique des actionnaires de Saint-Gobain, manipulé comme partie prenante. On voit comment l'action publicitaire, entendue au sens le plus large, peut modeler et totaliser des processus sociaux, comment elle peut se substituer quotidiennement, et sans doute plus efficacement encore, au système électoral, dans la mobilisation et le contrôle psychologique. Toute une nouvelle stratégie politique est en train de naître à ce niveau, contemporaine de l'évolution objective de la technostructure et du productivisme monopolistique. Troisièmement, le contrôle politique par la sollicitation et la sollicitude se double d'un contrôle plus intime sur les motivations mêmes. C'est là où le verbe « solliciter » prend son sens double, et c'est en ce sens que toute cette sollicitude est au fond terroriste. Nous prendrons cet admirable exemple publicitaire qui s'intitule « Quand une jeune fille vous dit qu'elle adore Freud, il faut comprendre qu'elle adore les bandes dessinées. » Une jeune fille, c'est un petit être farouche, plein de contradictions. Or, au-delà de ces contradictions, il nous appartient à nous, publicitaires, de comprendre cette jeune fille, plus généralement de comprendre les gens auxquels nous désirons nous adresser. Fermez les guillemets. Donc les gens sont incapables de se comprendre, de savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Mais nous, nous sommes là pour ça. Nous en savons bien plus long que vous sur vous-même. Position répressive d'analyste paternaliste. Et les finalités de cette compréhension supérieure sont claires. Comprendre les gens pour être compris d'eux, savoir leur parler pour être entendu d'eux, savoir leur plaire pour les intéresser, bref, savoir leur vendre un produit, votre produit, c'est ce que nous appelons la communication. Astuce de commercialisation ? Pas seulement. Cette jeune fille n'a pas le droit d'aimer Freud, elle se trompe, et nous allons lui imposer pour son bien ce qu'elle aime en secret. Toute l'inquisition sociale est là, toute la répression psychologique. La publicité dans son ensemble n'avoue pas si clairement les choses, elle met en œuvre cependant à tout instant les mêmes mécanismes de contrôle charitable et répressif. Ainsi encore la TWA, la compagnie qui vous comprend. Et voyez comme elle vous comprend, ouvrez les guillemets. Nous ne supportons pas l'idée de vous savoir tout seul dans votre chambre d'hôtel, manipulant frénétiquement les boutons de votre télévision. Nous allons tout faire pour vous permettre d'emmener votre chère moitié avec vous lors de votre prochain voyage d'affaires, tarif spécial famille, etc. Avec votre chère moitié près de vous, au moins vous aurez quelqu'un pour changer de chaîne, c'est ça l'amour. Fermez les guillemets. Pas question d'être seul, vous n'avez pas le droit d'être seul. Nous ne le supportons pas. Si vous ne savez pas ce que c'est que d'être heureux, nous vous l'apprendrons. Nous le savons mieux que vous. Et même la façon de faire l'amour, votre moitié, c'est votre deuxième chaîne érotique. Vous ne le saviez pas ? Nous vous l'apprenons aussi. Car nous sommes là pour vous comprendre, c'est notre rôle. La comptabilité sociométrique. La sociabilité ou la capacité de créer du contact, d'alimenter la relation, de promouvoir les échanges, d'intensifier le métabolisme social, devient dans cette société une marque de la personnalité. Les conduites de la consommation, de dépenses, de mode et, à travers elles, de communication avec les autres, sont une des pièces maîtresses de cette personnalité sociométrique contemporaine, telle que l'a esquitté Risman dans La foule solitaire. Tout le système de gratification et de sollicitude n'est en effet que la modulation affective elle-même fonctionnalisée, d'un système de relations où le statut de l'individu change totalement. Entrer dans le cycle de la consommation et de la mode, ce n'est pas seulement s'environner d'objets et de services au gré de son propre plaisir, c'est changer d'être et de détermination. C'est passer d'un principe individuel fondé sur l'autonomie, le caractère, la valeur propre du moi, à un principe de recyclage perpétuel par indexation sur un code où la valeur de l'individu se fait rationnelle, démultipliée, changeante. C'est le code de la personnalisation dont nul individu en soi n'est dépositaire, mais qui traverse chaque individu dans sa relation signifiée aux autres. La personne comme instance de détermination disparaît au profit de la personnalisation. À partir de là, l'individu n'est plus un foyer de valeur autonome, il n'est plus que le terme de relation multiple dans un processus d'interrelation mouvante. Ouvrez les guillemets, l'extra-déterminé est en quelque sorte chez lui partout et nulle part, capable d'une intimité rapide, quoique superficielle, avec tout le monde. Riesman. En fait, il est pris dans une sorte de graphe sociométrique, et perpétuellement redéfini par sa position sur ses toiles d'araignée bizarres, ou ses fils qui joignent A, B, C, D, E dans un réseau de relations positives, négatives, unies ou bilatérales. Bref, c'est un être sociométrique dont la définition est qu'il est à l'intention des autres. Ceci n'est pas seulement un modèle idéal. Cette immanence des autres et cette immanence aux autres régit tous les comportements statutaires, donc tout le domaine de la consommation, selon un processus d'interrelation illimité, où il n'y a pas à proprement parler de sujet individualisé dans sa liberté, ni d'autre au sens sartrien du terme, mais une ambiance généralisée, où les termes relatifs ne prennent de sens que par leur mobilité différentielle. C'est la même tendance qu'on peut lire au niveau des objets-éléments et leur manipulation combinatoire dans les intérieurs modernes. Il ne s'agit donc pas dans ce type nouveau d'intégration de conformisme ou de non-conformisme, quoique le lexique journalistique use encore constamment de ces termes, ils sont relatifs à la société bourgeoise traditionnelle, mais de socialité optimale, de compatibilité maximale aux autres, aux situations, aux professions diverses, recyclage, polyvalence, de mobilité à tous les niveaux. Être universellement mobile, fiable et polyvalent, c'est cela la culture à l'ère de l'human engineering. Ainsi les molécules se constituent à partir des valeurs multiples de tels atomes. Elles peuvent se défaire pour se réorganiser autrement ou constituer de grosses molécules complexes. Cette capacité d'adaptation coïncide avec une mobilité sociale différente de l'ascension du parvenu ou du self-made man traditionnel. On n'y brise pas les liens selon la trajectoire individuelle. On n'y ferait pas sa voie en rupture de classe, on n'y brûle pas les étapes. Il s'agit d'être mobile avec tout le monde et de franchir les degrés codés d'une hiérarchie dont les signes se distribuent de façon rigoureuse. Il n'est d'ailleurs pas question de ne pas être mobile. La mobilité est un brevet de moralité. C'est donc toujours aussi une contrainte de mobilisation. Et cette compatibilité de tous les instants est toujours aussi une comptabilité. C'est-à-dire que l'individu défini comme la somme de ses relations, de ses valences, est aussi toujours comptabilisable comme tel. Il devient unité de calcul et entre de lui-même dans un plan calcul sociométrique ou politique. Probation et approbation. Dans ce réseau de relations anxieuses où il n'y a plus de valeur absolue, mais seulement de la compatibilité fonctionnelle, il ne s'agit plus de s'imposer, de faire ses preuves, probation, mais de trouver le contact et l'approbation des autres, de solliciter leur jugement et leur affinité positive. Cette mystique de l'approbation se substitue partout progressivement à celle de l'approbation. L'objectif d'accomplissement transcendant de l'individu traditionnel cède la place à des procès de socialisation réciproque, au sein où nous l'avons défini plus haut. Chacun sollicite et manipule, chacun est sollicité et manipulé. Tel est le fondement de la nouvelle morale, où les valeurs individualistes ou idéologiques le cèdent à une espèce de relativité généralisée, de réceptivité et d'adhésion, de communication anxieuse. Il faut que les autres vous parlent, au double sens intransitif, qu'ils s'adressent à vous, transitif, qu'ils vous expriment et disent ce que vous êtes. Vous aiment, vous entourent. Nous avons vu l'orchestration de ceci dans la publicité qui ne cherche pas tellement à vous informer, ni même au fond à vous mystifier, mais à vous parler. Il est sans importance, dit Riesman, de savoir si Johnny s'amuse mieux avec un camion qu'avec le tas de sable. Par contre, il est essentiel de savoir s'il joue, à quelque jeu que ce soit, en bonne entente avec Bill. On arrive au point où le groupe s'intéresse moins à ce qu'il produit qu'aux relations humaines en son sein. Son travail essentiel peut être en quelque sorte de produire de la relation et de la consommer au fur et à mesure. À la limite, ce processus suffit à définir un groupe en dehors de tout objectif extérieur. Le concept d'ambiance résume assez bien la chose. L'ambiance, c'est la somme diffuse de relations produites et consommées par le groupe rassemblé, présence du groupe à lui-même. Si elle n'existe pas, on peut la programmer et la produire industriellement. C'est le cas le plus général. Dans son acceptation la plus large, qui déborde de loin l'usage commun, ce concept d'ambiance est caractéristique de la société de consommation qui peut se définir ainsi. Premièrement, la valeur d'objectif et de transcendance, valeur finale et idéologique, laisse place aux valeurs d'ambiance, relationnelle, immanente, sans objectif, s'épuisant dans le moment de la relation. Deuxièmement, la société de consommation est en même temps une société de production de biens et de production accélérée de relations. C'est bien ce dernier aspect qui la caractérise. Cette production de relations, encore artisanale au niveau intersubjectif ou des groupes primaires, tend pourtant à s'aligner progressivement sur le mode de production des biens matériels, c'est-à-dire sur le mode industriel généralisé. Elle devient alors, selon la même logique, le fait, sinon le monopole, d'entreprises spécialisées, privées ou nationales, dont c'est la raison sociale et commerciale. Les conséquences de cette évolution sont encore difficiles à entrevoir. Il est difficile d'admettre qu'on produise de la relation humaine, sociale, politique, comme on produit des objets, et que, à partir du moment où elle est produite de la même façon, elle soit au même titre un objet de consommation. C'est pourtant la vérité, mais nous ne sommes qu'au début d'un long processus. Culte de la sincérité, tolérance fonctionnelle. Pour pouvoir être produite et consommée, la relation, comme les biens matériels, comme la force de travail et selon la même logique, doit être libérée, émancipée. C'est-à-dire qu'elle doit se dégager de toutes les conventions et rituels sociaux traditionnels. C'est la fin de la politesse et de l'étiquette, lesquelles sont incompatibles avec la relation fonctionnelle généralisée. Si l'étiquette tombe, la relation n'en devient pas pour autant spontanée. Elle tombe sous le coup de la production industrielle et de la mode. Mais parce qu'elle est le contraire de la spontanéité, elle va en reprendre impérieusement tous les signes. C'est ce que Riesman a marqué dans sa description du culte de la sincérité. Mystique parallèle à celle de la chaleur et à celle de la sollicitude dont nous avons parlé plus haut, ainsi que de tous les signes, les rites obligés de la communication absente. Ouvrez les guillemets, cette hantise de la sincérité ne fait que rappeler tristement combien ils font peu confiance à eux-mêmes et aux autres dans la vie quotidienne. Fermez les guillemets. C'est en effet le fantôme de la sincérité perdue qui hante toute cette amicalité du contact, ce perpétuel en direct avec. Ce jeu et ce forcing du dialogue à tout prix. La relation authentique est perdue, vivre la sincérité. Il y a peut-être aussi, d'un point de vue plus sociologique, derrière cette obsession de la loyauté des prix, du fair-play sportif, sentimental et politique, de la simplicité des grands, des confessions accrues d'idoles de cinéma ou d'ailleurs, ou de flash aux téléobjectifs sur la vie quotidienne des familles princières, il y a peut-être dans cette demande effrénée de sincérité, comme de celle du matériau dans la construction moderne, l'immense défiance, l'immense réaction des classes acculturées vis-à-vis de la culture et des rites traditionnels, quels qu'ils soient, qui ont toujours servi à marquer la distance sociale. Une obsession immense qui traverse toute la culture de masse, expression de classe des déclassés de la culture, la hantise de se faire avoir, d'être dupé et manipulé par les signes, comme ils l'ont été historiquement pendant des siècles, ou encore la peur ou le refus de la culture savante et cérémoniale, refoulée derrière le mythe d'une culture du naturel et de la communication instantanée. De toute façon, dans cette culture industrielle de la sincérité, ce sont encore les signes de la sincérité qui sont consommés. Et cette sincérité-là ne s'oppose plus au cynisme ou à l'hypocrisie comme dans le registre de l'être et de l'apparence. Dans le champ de la relation fonctionnelle, cynisme et sincérité alternent sans se contredire dans la même manipulation de signes. Bien sûr, le schème moral, sincérité égale bien, artificialité égale mal, joue toujours, mais il ne connote plus des qualités réelles, il ne connote plus la différence entre les signes de la sincérité et les signes de l'artificialité. Le problème de la tolérance, libéralisme, laxisme, permissive society, etc., se pose de la même façon. le fait qu'aujourd'hui les ennemis jadis mortels ne parlent plus, que les idéologies les plus farouchement opposées dialoguent, qu'une sorte de coexistence pacifique s'installe à tous les niveaux, que les mœurs s'assouplissent, tout ceci ne signifie pas du tout un progrès humaniste dans les relations humaines, une plus grande compréhension des problèmes et autres fadaises. Cela signifie simplement que les idéologies, les opinions, les vertus et les vices n'étant plus à la limite qu'un matériel d'échange et de consommation, tous les contradictoires s'équivalent dans le jeu des signes. La tolérance dans ce contexte n'est ni un trait psychologique ni une vertu, c'est une modalité du système lui-même. Elle est comme l'élasticité, la compatibilité totale des termes de mode. Jupe longue et mini-jupe se tolèrent très bien, elles ne signifient d'ailleurs rien de plus que leurs rapports respectifs. La tolérance connote moralement la relativité généralisée des fonctions signes, des objets signes, des êtres signes, des relations signes, des idées signes. En fait, on est au-delà de l'opposition fanatisme-tolérance, comme on est au-delà de l'opposition trucage-sincérité. La tolérance morale n'est pas plus grande qu'auparavant. Simplement, on a changé de système et on est passé à la compatibilité fonctionnelle.